Dans ce que le programme appelle une présentation, on s'attend, j'imagine, à ce que je livre quelques observations, plus ou moins académiques, avant que vienne le temps des choses sérieuses, je veux dire le temps des sachants plus avisés que moi des pratiques du terrain et des difficultés que ces pratiques recèlent. Bref, on attend de moi que je campe le décor. Eh bien, campons. Cela pourrait être très rapide, parce que la question qui est posée, la notion d'auteur d'un cours ou d'une ressource numérique, la question appelle a priori un renvoi aux principes généraux. L'auteur n'est-il pas tout simplement la personne physique qui crée ce que la loi française appelle une œuvre de l'esprit ? Il ne peut pas en aller autrement si l'œuvre est un cours ou une ressource numérique, comme il est dit dans l'intitulé. L'existence d'un format numérique doit rester indifférente compte tenu du principe de neutralité technologique du droit en général et du droit d'auteur en particulier. Cependant, à bien y regarder, on mesure l'intérêt qui s'attache à compléter les règles traditionnelles gouvernant la titularité initiale des droits, c'est mon premier point, par quelques observations permettant de prendre en compte la spécificité des œuvres pédagogiques numériques, telles que je peux imaginer, moi, de la place où je suis, cette spécificité. Alors, si on examine d'abord ces règles traditionnelles, je crois qu'on attend cela de moi, c'est comme ça que j'ai compris ma mission, on constate que la loi française ne donne aucune définition de l'auteur. On a bien un article, c'est le premier alinéa du Code de la propriété intellectuelle, qui dit « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. » D'accord ? Ça veut dire que la protection du droit d'auteur est indépendante de toute formalité. Mais ça ne nous dit pas qui est l'auteur. Alors, on pourrait penser que ça coule de source, que si le législateur ne l'a pas dit, c'est parce que ça relevait purement et simplement de l'évidence. Il faut se méfier de l'évidence, et les juristes se méfient de l'évidence. Ils pensent peut-être à la définition que Tristan Bernard donnait de l'orange, je cite, « Ce fruit qu'on a si bien fait de baptiser orange, puisqu'il en a le goût, la forme et la couleur. » Évidemment, avec des définitions comme ça, on ne progresse pas beaucoup. Cependant, d'un point de vue français, je suis obligé d'apporter cette précision, on s'est toujours accordé sur l'idée que l'auteur était l'homme, la femme, l'être de chair et de sang, du cerveau duquel naît une œuvre. C'est une approche personnaliste qu'on retrouve dans beaucoup de législations. Dans la loi française, on peut trouver un argument de texte dans l'article L113.2, alinéa 1er, vous l'avez, puisqu'on a eu la très bonne idée de vous donner les textes dans l'ordre où ils sont cités, est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Je reviendrai plus tard sur le statut d'œuvre de collaboration. Ce qui m'intéresse à ce stade, c'est de noter que le législateur, pour cette œuvre, précise bien qu'il s'agit de personnes physiques. Et on voit bien qu'il s'agit là d'un principe général. Si les co-auteurs d'une œuvre ne peuvent avoir cette qualité qu'à la condition d'être des personnes physiques, ça doit valoir aussi pour l'auteur unique d'une œuvre. De ce point de vue, l'opposition est nette entre les systèmes à la française. Hein, on a le droit de les baptiser comme ça, car le droit d'auteur français est un modèle dans le monde, et vous pourriez poser la question à un spécialiste allemand, italien ou espagnol, il vous dirait la même chose. À la différence donc des systèmes personnalistes à la française, en droit américain par exemple, la notion d'auteur est complètement différente, notamment à travers la doctrine qu'on appelle en anglais la doctrine des « works made for hire », c'est-à-dire des œuvres créées sur commande. Le droit américain n'hésite pas à reconnaître la qualité d'auteur, je dis bien d'auteur, à l'investisseur qui a financé la création. Qui est l'auteur du film primé au Festival de Cannes, pas cette année parce que c'est pas un film américain, mais lorsque c'est un film américain, eh bien, ça n'est pas celui que nous appelons réalisateur et que les Américains appellent director. C'est l'investisseur, c'est le producteur. Donc, une approche complètement différente. Ça explique, par parenthèse, que le grand texte international en la matière, la Convention de Berne de 1886, se garde bien de prendre parti sur une question qui, on le voit bien, ne coule pas de source autant que des Français pourraient le croire. Ce principe s'applique aux œuvres même créées par des salariés. La loi française le dit expressément. Elle s'applique aussi aux œuvres créées par des agents publics. Alors, je sais bien que dans le dernier état de la législation, qui tient compte de la loi du 1er août 2006, les droits sur les œuvres créées par des agents publics donnent lieu normalement à une cession légale au profit de l'administration. Oui. Mais d'abord, cette cession légale est enfermée dans un périmètre relativement étroit. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis, de toute façon, ça n'est qu'une cession, c'est-à-dire que l'auteur de l'œuvre reste bien le fonctionnaire qui l'a conçu. Et ce fonctionnaire, cet agent public plus généralement, reste en toute hypothèse titulaire du droit moral. Que ce droit moral soit amoindri, c'est vrai, ne change rien à la chose. Reste à prouver la qualité d'auteur. Là, un autre texte doit être pris en compte, mais je m'aperçois que il n'a pas été repris ici. C'est l'article L113.1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. C'est une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen, mais elle est évidemment d'une très grande importance en pratique. Étant entendu que cette présomption ne peut être invoquée que par une personne physique, sinon la règle que j'ai commencé par rappeler n'aurait plus aucun sens. Une association, une société, une collectivité territoriale, l'État, ne peut pas bénéficier de cette présomption attachée à la divulgation. Je sais bien qu'il y a des arrêts récents qui ne sont pas aussi clairs qu'ils devraient l'être à cet égard, mais la Cour de cassation ne pourra pas dire autre chose que ce que je dis là, parce que c'est clairement la lettre et l'esprit de la loi française. Bon, tout ça est simple. C'est un peu plus compliqué si l'on considère le cas des œuvres plurales. Et c'est évidemment une hypothèse que nous devons considérer en premier lieu, car, bien sûr, les œuvres pédagogiques peuvent être créées, et elles sont, c'est souvent le cas, par des enseignants à titre individuel. Il est aussi fréquent, j'ai envie de dire, il est de plus en plus fréquent qu'elles soient le résultat d'un travail en équipe. Qualification qui a alors vocation à s'appliquer normalement, la qualification de principe, c'est celle d'œuvre de collaboration. Il faut que j'en dise un mot. Mais il y a une catégorie particulière en droit français qui appelle examen, c'est la catégorie de l'œuvre collective, qui vient bousculer le schéma traditionnel que j'esquisse à grands traits. Alors, l'œuvre de collaboration, elle est définie, j'ai déjà cité la disposition, par l'article L113.2 alinéa 1er, Mais d'une manière qui semble tellement générale qu'on se demande si c'est bien une définition opératoire. L'œuvre de collaboration, c'est celle, dit la loi, à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Ben, on a l'impression que toutes les œuvres plurales doivent être des œuvres de collaboration, puisque s'il y a une pluralité de participants, on imagine qu'ils ont concouru ensemble à la réalisation de l'œuvre. En fait, c'est le régime de droit commun de l'œuvre plurale, je l'ai dit, mais il y a un régime particulier, l'œuvre collective dont je parlerai ensuite, et surtout, la jurisprudence est un peu plus précise que ça. Elle dit que l'œuvre de collaboration suppose qu'il y ait une concertation entre ceux qui ont réalisé l'œuvre. Autrement dit, l'œuvre pédagogique à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes, mais chacun travaillant pour sa part, sans concertation, ne pourrait pas être considérée comme une œuvre de collaboration, faute de constater cette coopération, cette intimité spirituelle, a même dit un vieil arrêt à propos d'Alphonse Daudet et de sa femme. Donc cet échange de points de vue, à défaut de quoi donc l'œuvre ne pourrait pas être réputée œuvre de collaboration. Concrètement, quel est le régime qui se déduit de l'œuvre de collaboration? Eh bien, pour les juristes, ça renvoie essentiellement aux règles de l'indivision. Plus concrètement encore, ça signifie que c'est la règle d'unanimité qui s'appliquera, aussi bien pour céder les droits, pour choisir les exploitants, étant entendu que s'il y a un désaccord, le Code de la propriété intellectuelle dit que il appartiendra au juge de trancher ce désaccord, qu'il survienne sur le terrain des droits patrimoniaux ou sur le terrain du droit moral. On voit difficilement le moyen de faire autrement lorsqu'ils ne sont pas d'accord. L'exception sur laquelle je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus longtemps, c'est le cas de l'œuvre collective. Alors, l'œuvre collective, elle est définie par l'article L113-2, alinéa 3. Alors, je vous le lis, mais je suis pas sûr que ça vous avance beaucoup si je vous le lis, surtout si je fais exprès de le lire un peu vite pour que vous compreniez encore moins. Édite collective, l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rédaction n'est pas heureuse. Avec des textes comme ça, on se prend à penser que, décidément, le législateur n'a pas vraiment pris en compte l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui prescrit l'usage du français dans le domaine du droit, parce que c'est à peine français, et en tout cas, c'est pas clair du tout. Et de fait, cette disposition existe depuis 50 ans en droit français. Elle remonte à la loi de 1957 et on ne sait toujours pas comment l'interpréter. On a une demi-douzaine d'arrêts de la Cour de cassation par an et ça ne nous éclaire pas davantage. C'est presque impossible à interpréter compte tenu des termes qui sont utilisés. Je ne vais pas entrer dans la querelle, je vais simplement vous dire quelle est la tendance générale. La tendance générale de la jurisprudence, et elle est critiquable, mais soyons concrets et pratiques. C'est à considérer que deux éléments vont conduire à la qualification d'œuvre collective. Le premier, c'est l'existence d'une personne physique ou morale, en pratique, c'est toujours une personne morale, qui va prendre l'initiative de la création et qui va en diriger la création. Il y a un rapport hiérarchique entre le promoteur de l'œuvre collective et ceux qui travaillent dans le cadre de cette œuvre. Deuxième élément, il faut que les contributions se fondent de telle façon qu'il est impossible de déterminer qui a fait quoi. C'est ainsi qu'on peut résumer la jurisprudence la plus récente. Elle est critiquable car cette jurisprudence ne permet pas de bien opérer le départ entre l'œuvre de collaboration et l'œuvre collective. Mais ça, c'est une question pour... C'est une question académique, et dans le détail de laquelle on ne va pas entrer. Voilà à quelles conditions une œuvre peut être qualifiée œuvre collective. Quelles sont les conséquences qu'on en tire? Et tout est là. La conséquence qu'on en tire, c'est que lorsqu'on est en présence d'une œuvre collective, les droits naissent sur la tête de la personne physique, c'est exceptionnel, morale, c'est pratiquement la règle, qui a pris l'initiative de l'œuvre. L'éditeur, la collectivité territoriale, qui a choisi, qui a pris l'initiative de l'œuvre et qui en a dirigé la création. On a donc ici, contrairement au principe que j'ai rappelé pour commencer, on a donc ici une personne morale qui peut être titulaire initial des droits. Alors la Cour de cassation a pris soin de préciser qu'il ne fallait pas l'appeler auteur parce que ça faisait un peu désordre. Vous comprenez, compte tenu de la tradition personnaliste du droit français, c'est assez malvenu de dire qu'une société est un auteur. Remarquez que dans la pratique, on voit beaucoup d'arrêts qui le disent, mais pas la Cour de cassation. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. C'est bien le titulaire initial du droit. Titulaire initial des droits, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de se les faire céder. Souvent dans la pratique, ils se font céder les droits quand même. Parce qu'on trouve que ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant. Mais la logique de l'œuvre collective, c'est que on n'a pas besoin de cession, puisque la personne morale qui a pris l'initiative de l'œuvre et qui l'a dirigée est investie à titre originaire de tous les droits, y compris le droit moral. Ce qui est un peu gênant. Qu'est-ce que ça signifie, le droit moral, entre les mains, si je puis ainsi m'exprimer, d'une personne morale? Bon, alors, ce qu'il faut reconnaître tout de même, c'est que les contributeurs disposent de certains droits diminués, mais ils ont quand même eux aussi la qualité d'auteur, et donc les droits que la personne morale exerce sur l'œuvre, elle doit les exercer en tenant compte de ceux que peuvent faire valoir les contributeurs. Concrètement, du point de vue du droit moral, par exemple, le promoteur de l'œuvre collective est certes titulaire initial des droits, mais il ne peut pas faire n'importe quoi des contributions, parce que là, on va retrouver l'incidence du droit moral des auteurs. Voilà pour les principes, et vous voyez que j'ai vraiment fait dans le général. Pour être un peu plus concret, je voudrais maintenant passer à l'examen de quelques difficultés susceptibles d'apparaître avec le cas des œuvres pédagogiques numériques. Et la première difficulté peut toucher à la question de l'originalité. Les notions d'auteur et les notions d'originalité sont des notions jumelles. L'auteur d'une œuvre de l'esprit ne peut bénéficier du droit d'auteur qu'à la condition que son œuvre soit originale. La loi ne pose pourtant pas cette exigence, en tout cas pas la loi française. Mais on n'a jamais douté qu'elle s'imposait. On n'a jamais douté non plus de sa définition, en tout cas de principe. Le principe, on trouve ça dans toutes les décisions de justice, à peu près dans les mêmes termes, c'est que l'originalité s'entend de l'expression de la personnalité de l'auteur, de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, où l'on mesure l'approche très subjective du droit français. Dans les pays de copyright, on n'a pas la même approche, est originale, l'œuvre qui n'est pas copiée. Hein, voilà ce qu'un juriste anglais dira. À partir du moment où une œuvre n'est pas copiée, elle est originale. C'est un vieil arrêt qui a été rendu à propos d'une université de Londres, qui a dit cela en 1916. En France, et c'est cohérent avec l'approche personnaliste du droit français, on considère que l'auteur doit mettre de lui dans l'œuvre qu'il a créée, et c'est la condition qui est posée à la naissance du droit d'auteur. En vérité, cette définition cadre très bien avec ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, les œuvres des beaux-arts, la poésie, les arts graphiques et plastiques. On voit bien que ça ne cadre pas tellement avec les œuvres utilitaires en général, et notamment pour ce qui nous concerne avec les œuvres pédagogiques. Encore qu'il ne faille pas sous-estimer la part de l'empreinte personnelle de l'auteur dans tel ou tel enseignement. Bon, évidemment, il sera plus difficile de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans un traité de physique nucléaire, enfin, dans l'idée que je m'en fais, parce que j'ai pas beaucoup d'idées là-dessus, ou dans un traité d'anatomie, où on est quand même très bridé par les nécessités, que dans un traité même de droit. Donc, il faut regarder dans chaque cas d'espèce si la condition d'originalité est remplie. Je crois qu'il est quand même important de dire qu'il ne faut pas considérer que toute œuvre pédagogique est, par hypothèse, protégée par le droit d'auteur. C'est pas certain. Et si on regarde la jurisprudence, on voit que c'est parfois discuté. Bon, j'ai envie de dire, les vraies œuvres pédagogiques seront nécessairement des œuvres originales au sens du droit d'auteur et seront protégées. Mais parfois, la finalité d'une œuvre peut être pédagogique sans que cette œuvre réponde à la condition d'originalité que, pour ces œuvres de caractère utilitaire, on tend à ramener, au-delà de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, à un minimum de créativité. Là, je ne mets pas de guillemets, c'est pas la jurisprudence qui s'exprime ainsi, mais on peut, je crois, résumer les choses de cette manière. Très souvent, l'originalité de mémoire, de thèse ou de documents pédagogiques est mise à l'épreuve devant les tribunaux. Le plus souvent, l'originalité est admise, mais pas toujours. Par exemple, on voit des tribunaux qui disent, bien écoutez, non, voilà un travail de compilation, de pure compilation, qui ne révèle pas le minimum de créativité nécessaire. Alors, dans le langage du droit d'auteur, on va dire, qui ne révèle pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur, mais ne soyons pas dupes. Ça veut dire qui ne révèle pas le minimum de créativité nécessaire. Donc, faut regarder dans chaque cas. Je sais bien que, pour les gens de terrain, c'est difficile, il est difficile de mener cet examen. Et donc, le bon réflexe, c'est quand même de considérer qu'a priori, il y a des chances pour que l'œuvre soit qualifiée originale. Mais faut pas se dispenser de cet examen. Et par exemple, prendre un cas très simple. La simple numérisation d'un cours la simple numérisation d'un cours préexistant, d'un ouvrage pédagogique préexistant, ne constituerait pas une œuvre originale au sens du droit d'auteur. Le simple changement du format analogique en format numérique ne peut pas donner naissance à une œuvre au sens du droit d'auteur. Et puis, il y a la question de l'identification, de ce que j'ai appelé l'identification des co-auteurs d'œuvres numériques. Et là, on revient aux questions fondamentales, un peu existentielles, du droit d'auteur. Vous savez, c'est ces grandes questions existentielles que Paul Gauguin résumait ainsi. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et Pierre Desproges ajoutait, quand est-ce qu'on mange? Mais enfin, là, c'est un peu tôt pour moi de dire ça à 11h-10. Mais c'est un peu les questions existentielles du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur? Est-ce que la nouvelle donne numérique ne remet pas en cause le concept d'auteur? Et est-ce que ne va pas se trouver vérifier l'annonce que l'on prête à Michel Foucault, à mon avis à tort, puisqu'il n'a jamais dit ça, mais bon, l'annonce que l'on prête à Michel Foucault de la mort de l'auteur? Je crois que là, faut être très, très définitif. Non. La mort de l'auteur, c'est pas pour aujourd'hui. Ou ça fait penser à la réaction de Mark Twain, dont un journal américain avait annoncé la mort et qui avait tenu à faire paraître le communiqué suivant. Je tiens à faire savoir que cette nouvelle est fortement exagérée. Et je crois que c'est la même chose pour la mort de l'auteur. L'auteur, ça reste toujours celui qui, quelles que soient les techniques utilisées en amont, et quelle que soit la sophistication des outils numériques, des logiciels qu'il peut utiliser, reste quand même celui qui est le metteur en scène, celui qui, à partir duquel, est réalisé l'œuvre. Donc, ce n'est pas tellement sur ce terrain, je crois, qu'il faut chercher à se faire peur. c'est plutôt sur l'idée que les créations numériques vont, dans la pratique, et notamment dans le domaine de l'enseignement, mettre en jeu des apports de nature très diverses. Bon, bien sûr, l'œuvre de collaboration, on sait ça depuis longtemps, peut mettre en présence des intervenants dans des genres différents. La musique et les paroles d'une chanson. Le texte et le scénario dans une bande dessinée. Bien sûr, on connaît ça depuis longtemps. Mais ici, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que on va avoir des intervenants dans des secteurs très différents. Ce qui va faire douter parfois de l'existence d'une véritable concertation entre eux, pour reprendre le concept que j'ai mis en avant tout à l'heure pour définir l'œuvre de collaboration. Concrètement, on a des intervenants qui apportent quelque chose dans le domaine des ressources numériques, pour reprendre la terminologie utilisée, et puis on va avoir des intervenants qui vont limiter leur rapport au domaine pédagogique, mais ça peut être plus compliqué. Il peut aussi y avoir des metteurs en images, des infographistes, et il peut y avoir quantité d'intervenants. Et là, la question se pose de savoir s'il est possible d'identifier les contributions de chacun. Pour vous donner un exemple, dans le domaine de la musique, Yanis Xenakis, l'inventeur de la musique stochastique, signait ses compositions avec son informaticien. Il y attachait beaucoup d'importance. Tout le monde ne fait pas comme Yanis Xenakis. Il y a d'autres auteurs qui considèrent que ceux qui apportent des ressources numériques ne sont que des prestataires de services, dont l'apport n'est pas créatif en tant que tel et dont l'apport ne peut leur donner la qualité de co-auteur, faute pour eux de participer à la définition de l'ensemble. Mais en fait, il y a des cas où ceux qui mettent à disposition des ressources numériques participeront à la définition de l'ensemble. Donc, il n'y a pas de règle. Il faut regarder. Pour prendre un exemple simple, c'est pas parce que la ressource numérique fera appel à un logiciel, même un logiciel dédié, un logiciel spécifique, que ça donnera à l'auteur du logiciel la qualité de co-auteur de l'œuvre finale. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Bah, c'est un petit peu comme si on voulait donner à Microsoft la qualité de co-auteur au prétexte qu'on a rédigé le manuscrit avec un logiciel diffusé par cette compagnie. Là, on voit bien que celui qui met à disposition les ressources numériques ne participe pas à la définition de l'ensemble. Il n'est tout simplement pas auteur et pas co-auteur. Mais dans d'autres cas, ça ne sera pas vrai. Dans d'autres cas, il faudra lui reconnaître la qualité d'auteur. Voilà un exemple de difficulté qu'on peut rencontrer. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, et c'est la raison pour laquelle, fort judicieusement, ceux qui ont conçu le séminaire ont décidé de compléter les observations un peu générales du premier rapporteur par des observations plus sagaces de ceux qui vont le suivre. C'est pourquoi je borne là mon propos en vous remerciant de votre attention.
Merci André. J'invite tout de suite à le rejoindre les participants de la table ronde. Gilbert Touzeau qui rentre opportunément, qui nous rejoint. Voilà. Et également Emmanuel Vitalis qui est à la table ronde. Anne Delamotte également. Et Michel Dupuis.
Je leur laisse ma carte. Moi, j'avais quelques réactions. Moi, j'ai joué avec les TIS depuis 92 et le droit d'auteur, c'est une épine dans mon talon depuis maintenant donc 16 ans. On peut dire qu'en première approximation, n'étant pas juriste, j'ai essayé de shooter en touche en repoussant le problème dans la main des établissements avec lesquels nous travaillons. dans l'UNIT aujourd'hui, les conventions qu'on signe sont avec les établissements, et ce qu'on cofinance est copropriété, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, entre l'établissement et l'UNIT, et on demande à l'établissement de se débrouiller avec son auteur. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais comment on ne sait pas faire mieux. Deuxième remarque, dans les sciences pour l'ingénieur, on a un problème, c'est que ce qu'on crée est en général un hybride compliqué entre du texte, un peu d'artistique parfois, du logiciel, et tout ça est dans l'œuvre. Alors comme le droit du logiciel, le droit des documents, le droit des vidéos qui accompagnent ne relèvent pas exactement des mêmes règles du jeu, on est quand même un peu ennuyé. Alors il faut par exemple pousser le bouchon encore plus loin en se disant, si un professeur de mathématiques utilise un logiciel fait par d'autres, par exemple libre de droit, le fait tourner et crée avec ce logiciel, et ça existe maintenant, automatiquement un théorème nouveau, à qui appartient le théorème? C'est intéressant, à l'ordinateur, au type qui a fait le logiciel, au bonhomme qui l'a lancé, qui l'a paramétré, bon. Donc voilà le genre de complexité auquel on est assez souvent confronté. Bon, dans UNIT, on peut dire que pratiquement la grande majorité de nos productions sont des œuvres collectives, puisqu'on impose la création de ressources numériques copilotées et co-créées par plusieurs établissements, de manière à ce que la probabilité qu'il soit utilisé soit meilleur que si l'œuvre est simplement issue d'un seul cerveau. Et on constate que lorsque c'est un prof qui domine lourdement la création d'une ressource numérique, elle est en général nettement moins utilisée. On le constate a posteriori. Bon, pour l'instant, nous avons pris l'option, alors on sait que c'est un large sujet de débat avec les juristes, de rendre la grande majorité de nos documents libres d'accès au moins à des fins non commerciales. Alors on a quand même un quart à peu près des ressources qui sont dont on restreint l'usage commercial, en particulier lorsque des entreprises nous ont aidés à les créer, ce qui arrive quand même. Alors, il y a toujours des discussions entre les différentes licences, CECIL, GPL, qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'ai déjà oublié le nom en anglais, bon, ça me reviendra. Voilà, que, c'est ça. Et puis après, bien, le réglage des paramètres, hein, puisque certaines licences, on peut dire libre accès, assemblable, désassemblable ou pas, etc. Bon, pour l'instant, je crois qu'on n'est pas satisfait. Chaque convention provoque des discussions, en particulier et surtout lorsqu'il y a des séquences télévisées. Donc alors, moi, en vous écoutant, je suis très intéressé sur le plan intellectuel, parce que vous avez dit, mais j'ai pas encore l'impression que ça m'aide tant que ça. Voilà mon problème. Merci.
André, tu veux peut-être déjà réagir à ce que tu as entendu et apporter des éléments.
Oui. D'abord, je comprends parfaitement votre insatisfaction parce que le niveau de généralité où j'en suis resté ne pouvait pas vous apporter beaucoup de lumière sur les questions très concrètes que vous vous posez et dont vous avez donné un aperçu. Parce que au fond, la règle du jeu, c'était qu'on on campe un décor et après on entre dans le détail. Je voudrais faire d'abord une observation d'ordre, j'allais presque dire méthodologique. Je comprends très bien le souci qui est celui de beaucoup de participants, de revenir avec des réponses concrètes. Ça, c'est normal. Yann Tanguy a fait allusion et il trouvait lui aussi que c'était normal, puisque c'est là-dessus qu'il a voulu insister. Oui, ça ne peut pas être des réponses toutes faites. Il ne serait pas honnête de la part d'un juriste de dire que c'est facile, parce que justement... Oui, c'est le cas des questions que vous avez posées, enfin pas toutes, mais justement, il y a souvent matière à discussion. Et les juristes le savent bien. Alors on peut vous donner des outils, on peut vous donner des guides de réflexion, on ne peut pas vous dire, eh ben voilà, c'est très simple, l'open access, ça se règle comme ça. Non, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas bien résolus ou qui peuvent être bien résolus, mais moyennant un examen au cas par cas. Donc c'est difficile pour le juriste d'être aussi précis que peut-être vous souhaiteriez qu'il le soit. Par exemple, première question, je ne suis pas sûr de les avoir toutes identifiées. Lorsqu'il y a un cofinancement, ça doit donner, se traduire par une co-titularité, enfin c'est moi qui explique ça comme ça, donc les droits sont en copropriété. Le partenaire faisant son affaire, devant faire son affaire, de régler la question des droits pouvant appartenir à l'enseignant, par exemple. Voilà, oui, très bien. Effectivement, j'ai rien à dire. Il me paraît tout à fait naturel que les choses se passent ainsi. Il est très fréquent que dans le cadre d'un contrat de commande en général, des clauses comme ça figurent dans le contrat. Chacune des parties ayant financé veut avoir la maîtrise juridique. La maîtrise juridique, ça passe par l'attribution des droits. Au fond, c'est la même chose pour les coproducteurs en matière de cinéma. Ils mettent de l'argent tous, et bien ils veulent tous avoir les droits pour ensuite pouvoir exploiter l'œuvre et en recueillir les fruits. Donc là, c'est très bien, il faut continuer comme ça. J'ai pas d'observation particulière. Sur la question des ressources numériques et des logiciels à partir desquels peuvent être développées, réalisées des créations nouvelles. Alors, l'exemple que vous avez pris du théorème nouveau, là, il est assez simple pour nous spécialistes du droit d'auteur, parce que de toute façon, un théorème en tant que tel ne peut pas constituer une œuvre de l'esprit, comme dit la loi française. Donc, c'est libre. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur et la question ne se pose pas. En revanche, et parce que je ne veux pas avoir l'air de botter en touche, il y a beaucoup d'autres cas où la question pourrait se poser. Et au fond, j'ai essayé de l'aborder à la fin de mon exposé, mais de façon très prudente, et sans doute trop prudente. Mais en même temps, elle est extrêmement difficile, cette question. À partir de quel stade le fournisseur de ressources numériques peut être considéré comme ayant pesé sur la création dérivée? Car c'est comme ça que nous appelons les choses. Nous, on dit que l'œuvre créée à partir d'une œuvre préexistante est une œuvre dérivée. Et pour une fois, le vocabulaire juridique, je trouve, correspond bien au vocabulaire tout court. Là, on ne peut pas nous accuser de faire dans l'ésotérisme. Donc, la question, c'est de savoir à partir de quand celui qui a conçu les ressources numériques, j'emploie exprès une expression large, pourra être considéré comme ayant participé à l'œuvre dérivée. Par exemple, dans une œuvre audiovisuelle, il est évident que lorsqu'un roman est porté à l'écran, eh bien, l'auteur du roman va pouvoir faire valoir des droits sur le film parce que le film est une œuvre dérivée. Bon. C'est pas toujours facile de transposer cette logique dans le domaine numérique, parce que les hypothèses sont extrêmement diverses. Et c'est là où je me permets de renvoyer à ma première. Je voudrais bien être plus précis, mais donnez-moi des exemples précis à ce moment-là. Moi, je veux bien qu'on discute, mais donnez-moi un exemple précis, en prenant le temps qu'il faut pour faire comprendre à un ignorant comme moi ce qu'il a besoin de savoir pour bien identifier la question. Hein. C'est ça que demande le juriste. Et puis, il y a la question, mais je suis sûr que vous en avez beaucoup d'autres dans votre besace, mais il y a la question des documents libres d'accès, enfin des œuvres libres d'accès en général. L'accès libre, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la réflexion dans le domaine de l'information scientifique aujourd'hui. Et l'année dernière, à pareille époque, il y avait un séminaire qui était organisé par la Commission européenne à Munich, co-organisé par l'Institut Max Planck de Munich, qui est un institut très très réputé pour maîtriser dans ce domaine de la propriété intellectuelle. Et le thème, c'était l'open access. Et on n'a parlé que de ça. Et les fonctionnaires de la Commission européenne sont venus nous expliquer l'importance que les autorités communautaires attachaient au développement de cet accès libre et aux problèmes juridiques que cela posait. Compte tenu de la diversité des pratiques. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a des licences. Et en plus, dans chaque domaine d'activité, c'est pas la même chose. Vous avez la licence libre en matière de logiciels, mais vous en avez plusieurs. Vous avez en matière, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais d'art graphique et plastique, vous avez la licence art libre. Vous avez dans d'autres domaines, d'autres types de licences. Vous avez schéma un peu général des Creative Commons. Alors, il n'y a pas de traduction, donc en français, Creative Commons, lancé par notre collègue qui est un peu devenu un gourou aux États-Unis sur ces questions, qui est Lawrence Lessig, qui est professeur à l'université de Stanford. Et
Donc, la variété de ces formules complique beaucoup la donne. Bon. Faut les regarder une par une. Je trouve assez logique que dans le cadre des UNT, vous pratiquiez ce libre accès, au moins à des fins non commerciales. Et moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être à vous de bâtir votre propre vision des choses. Pourquoi vous seriez obligé de prendre Creative Commons ou de prendre... Il faut réfléchir ensemble à la façon, à ce que vous voulez exactement et à ce qui est possible, enfin souhaitable, mais aussi possible. Alors, bon, j'ai l'impression là encore de botter un peu en touche, en ce sens que je vous renvoie à des discussions plus précises, mais peut-être qu'on peut entrer dans le détail. Moi, j'y suis tout prêt pour vous montrer que, nonobstant ma casquette d'universitaire, je suis tout prêt à labourer le terrain.
Merci. Michel Dupuis souhaite intervenir.
Sans renverser les bouteilles.
Michel Dupuis, Anne de Lavarte, à vous la parole si vous le souhaitez ensuite.
Oui, j'ajouterais. J'ajouterais juste une chose, c'est que accès libre ne signifie pas non plus utilisation complètement libre. Il ne faut pas oublier que sur les choses qu'on utilise, il y a quand même des droits moraux. Il faut respecter l'intégrité de l'œuvre. Enfin, c'est vraiment pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Moi, j'avais juste une question à poser à mon éminent collègue. Si on revient sur la notion de cours numérique, où vous l'avez bien dit, il y a plusieurs intervenants, y a-t-il une possibilité de qualifier, en fait un peu pour autant en touche hein, juridiquement, de qualifier l'œuvre d'œuvre collective de manière à renvoyer la titularité sur une UNT par exemple? Déjà, c'est la première question. La deuxième question, si ce n'est pas possible, donc on tombe évidemment dans l'œuvre de collaboration, et on sait très bien que dans le cadre des œuvres de collaboration, bon, je vais prendre l'exemple qu'on connaît bien au niveau de l'UNGF, nous avons un auteur, donc un collègue, hein, et derrière il y a une société, c'est Andil, je crois, qui fait la scénarisation. Cette scénarisation, alors, le vrai problème, c'est que, bon, il y a quand même une relation entre le prof et Andil, il y a vraiment une collaboration. Sauf qu'il faut quand même une création. Hein, ce qu'ils font, moi je suis pas capable de le faire, hein, les animations, etc. Il y a une création. Alors, je crois que là, il y a quand même deux co-auteurs. Hein, et il y a des problèmes de droit à régler à ce moment-là. Alors, il y a une troisième personne qui intervient, je voulais juste le signaler, c'est que nos cours sont mis en ligne, et dans la démarche pédagogique, il y a un tuteur qui vient tutorer le cours, c'est celui qui fait l'interface entre le cours numérique et les apprenants, comme on dit. Alors, lui, évidemment... il est en dehors du coup, c'est pas un auteur. Hein, donc, mais il intervient quand même dans le processus pédagogique. Je crois qu'il fallait quand même juste le nommer. Alors la question que je voulais vous poser, c'est effectivement déjà, est-ce qu'on peut effectivement trouver le moyen de border juridiquement, ne serait-ce que par contrat, hein, l'œuvre pour pouvoir lui donner cette qualification d'œuvre collective, ce qui nous arrangerait quand même bien. Hein, voilà.
J'identifie trois points dans votre question. Alors, sur l'œuvre collective d'abord, c'est le point principal pour vous. C'est vrai que c'est très avantageux pour celui qui a conçu le projet et qui l'a financé, de pouvoir se prévaloir du statut de l'œuvre collective. Tout simplement pour la raison que j'ai dite et à laquelle vous faites vous-même allusion, c'est que ça lui permet d'être le titulaire initial des droits. Il est bordé. J'ai bien dit, pas complètement, parce que s'il veut avoir la maîtrise juridique complète, il est utile qu'il se fasse concéder des cessions en toute hypothèse. Et de toute façon, il faudra bien qu'il tienne compte de l'incidence éventuelle du droit moral. Mais cette incidence ici n'est pas très gênante. Donc c'est un statut extrêmement avantageux. Pour l'investisseur en général, on va le qualifier comme ça. Donc on comprend très bien les raisons qui font qu'il le souhaite. Et la question plus précise que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'on peut s'arranger pour faire en sorte que le statut de l'œuvre collective trouve à s'appliquer? Réponse, oui. Compte tenu de ce que dit la jurisprudence, on s'aperçoit qu'il est possible d'organiser le travail de telle sorte que la qualification d'œuvre collective soit reconnue. Attention. Il ne suffit pas de le mettre dans le contrat. Les parties ne sont pas maîtresses de la qualification des œuvres, ça appartient à la loi. Et au juge, pas à elle. Donc, un contrat qui se bornerait à dire « les participants sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une œuvre collective », ça, ça sert à rien. Bon, on peut toujours le dire, mais ça n'est pas suffisant. En revanche, si on organise le travail dans les conditions que la jurisprudence considère comme étant celles qui président à la création d'une œuvre collective. Eh bien, il y a de fortes chances, évidemment, on n'est jamais sûr à 100%, que le juge s'y ralliera. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, il faut bien faire apparaître... D'abord, il faut qu'il y ait une pluralité de participants, parce que l'œuvre collective, ça implique qu'il y ait plusieurs participants.
Au moins deux ?
Au moins deux. Mais deux, ça suffit. Pluralité. Il faut que l'initiative soit prise par la personne en question. Ça, ça ne fait pas problème. Mais il faut surtout qu'il y ait un rôle de direction et de coordination qui soit joué par cette personne, directement ou par l'intermédiaire de ses subordonnés. Et je dirais, pour être bien sûr que... Par la personne morale, étant entendu que cette personne morale agira par le truchement des personnes physiques, de ses salariés ou d'autres représentants. J'ajoute, si on veut vraiment être sûr qu'il est utile, il serait en théorie utile, de bien veiller à ce que tout ce travail d'harmonisation se fasse directement par cette personne morale. Et donc, les auteurs, les participants aient certes des contacts entre eux. Je ne vois pas comment il est possible de l'empêcher. Mais que ces contacts soient toujours organisés, suivis par la personne morale qui dresse des procès-verbaux, qui fait des états des lieux. Bref, qui montre qu'elle n'a pas, ça serait dangereux, qu'elle ne s'en est pas remise pour la création et pour la coordination aux participants eux-mêmes, car le risque serait alors que un tribunal éventuellement saisi requalifie l'œuvre en œuvre de collaboration en disant, ben voilà, l'œuvre est vraiment née du concours de plusieurs personnes physiques. Donc vous voyez, c'est pas impossible, et je crois que la plupart des œuvres qui seront créées dans le cadre des UNT pourront, je dis pas toutes, parce que ça, je peux pas le savoir, mais beaucoup pourront répondre à la qualification.
Excusez-moi, est-ce que ça ne pose pas un problème de fusion ? Parce que c'est très bien que dans les œuvres collectives, l'apport de chacun doit se fusionner. Et là, en fait, dans nos cours, bon, il y a l'apport intellectuel et l'apport, on va dire, technique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a fusion des deux, comment dire, des deux collaborateurs, enfin des œuvres collaboratives au sein d'une œuvre collective, donc,
Là, vous m'obligez à entrer dans le détail d'une discussion juridique que j'ai évacuée tout à l'heure. Non, mais en même temps, c'est normal. On est là aussi pour aborder le fond des questions. Mais tout à l'heure, j'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail du commentaire de l'article L113.3 donne la définition de l'œuvre collective et dans le détail de la critique qu'on peut adresser à la jurisprudence, parce que je trouvais que ça n'était pas notre propos. En fait, ça devient un peu notre propos maintenant, parce que certes, la jurisprudence dit, et je crois que j'ai bien fait de le rappeler, qu'il est de l'essence de l'œuvre collective que les contributions des participants se fondent de telle manière qu'on ne puisse plus les démêler. Mais en réalité, la jurisprudence a tort de dire cela. C'est évident. Elle a tort, puisque beaucoup d'œuvres collectives, et on peut en citer, sont des œuvres dans lesquelles les contributions des participants sont identifiables et identifiées. Et alors, pardonnez, là, c'est le professeur de droit qui parle, mais elle a tort, les arrêts qui disent ça, ce sont que des arrêts des juridictions du fond, des cours d'appel. Mais ils ont tort de le dire. Exemple, les journaux. Dans beaucoup de journaux, les journalistes signent leur contribution. Or, le journal est donné pour l'exemple type de l'œuvre collective. Dans les encyclopédies, il est fréquent que les rubriques soient signées par des intervenants. Et pourtant, personne ne doute que ce sont des œuvres collectives. La qualification a été choisie pour cela. En 1957, on pensait aux dictionnaires. Et notamment au dictionnaire de l'Académie française. Et on disait, vous vous rendez compte, c'est pas possible d'en faire une œuvre de collaboration parce que on ne sait pas qui est là à la séance du jeudi pour le dictionnaire. Puis on aurait pu ajouter, on ne sait pas qui dort et qui ne dort pas. Mais, en fait, on aurait très bien pu s'en passer. Il suffisait de dire que c'était une œuvre de collaboration, mais dont les auteurs changeaient au fil du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'impossibilité de démontrer la fusion complète des contributions ne devrait pas faire obstacle à la qualification d'œuvre collective et ne fait pas toujours obstacle à la qualification d'œuvre collective. Donc pour moi, c'est pas dirimant. Mais j'ai quand même ajouté, il faut veiller à ce que la coordination des travaux ne soit pas le fait des participants eux-mêmes, sinon manquerait le travail de direction qui est essentiel pour aboutir à la qualification d'œuvre collective.
Gilbert, toujours vous ajoutez une chose, puis très vite on va passer la parole aux deux autres collègues.
Voilà, avec le micro. On sent bien qu'il y a deux modes de fonctionnement dans les UNT. Certains d'entre eux, en fait, passent commande d'un cours particulier avec un profil défini d'une certaine manière et après pilotent assez directement les enseignants qui les font. D'autres UNT, alors c'est le cas du NIT, du NICIEL, je sais pas pour l'UMBF, on est dans une logique différente où on fait un appel à projet en disant « Êtes-vous intéressé à nous proposer quelque chose ?» Et nous, on choisit sur des critères qui sont souvent les nombres d'utilisateurs. Et on sent bien que c'est là qu'au fond se fait la distinction. Voilà.
André, tu veux... André, la précision t'inspire un commentaire, là, sur...
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En revanche, j'aurais d'autres réponses à faire, mais je pense que d'accord. La question sera...
Madame Delamotte.
Du scénariste.
Madame Delamotte. Voilà.
En fait, effectivement, c'est exactement la même question que pour UNIT à l'UMVF. On fonctionne de la même manière avec, effectivement, des appels à projets. Souvent, on demande... Enfin, les axes de développement ont été décidés en conseil d'administration. Donc, il est demandé aux porteurs de projets de rentrer dans ces axes. Et au final, il y a un responsable de projet qui porte l'ensemble, mais il n'est pas sous la direction directe de l'UMVF, effectivement. Alors là, œuvre collective de l'UMVF. Et puis effectivement la question aussi moi qui dans votre propos qui m'a interpellée c'est l'originalité. Comment en médecine effectivement sur certains domaines y a-t-il originalité ou pas? Comment la prouver? Comment la qualifier? Et effectivement quel régime à ce moment-là si ça n'est pas original? Oui original. Quel régime est-ce qu'on peut donc diffuser librement?
Deux réponses. Je voudrais d'abord bien identifier l'interrogation qui est la vôtre. Vous vous demandez si ça suffit qu'il y ait un rapport de subordination, mais avec quelqu'un d'autre, au fond. C'est ça, votre idée. Là, oui, ça appelle. C'est un peu délicat. Je ne sais pas trop quoi répondre. Non, mais on va réfléchir. Est-ce que on peut considérer que le véritable donneur d'ordre, au fond, dépend quand même, est en relation juridique avec l'université? Justement. Donc, à ce moment-là, si c'est une délégation pour moi, juriste, mais il faudrait être sûr que c'est ça. Ça vous gêne pas que je dise ça, que c'est une délégation?
Que c'est le rapport...
Bon, alors à ce moment-là, pour moi, ça met fin à la difficulté. Au fond, on peut très bien imaginer, par exemple, je reviens à des hypothèses classiques, un éditeur peut choisir d'exercer directement son pouvoir de direction et de coordination, mais rien ne l'empêche de faire, de déléguer ce pouvoir à un prestataire de service extérieur, par exemple parce que l'opération est trop lourde pour lui, par exemple parce que l'opération, vous savez, ça arrivera souvent dans le domaine du multimédia, parce que l'opération va faire appel à tellement d'autres prestataires que lui, éditeur, va se sentir mal à l'aise pour jouer ce rôle. Non, pour moi, ça ne fait pas obstacle du tout à l'existence de cette relation hiérarchique qui est de l'essence de l'œuvre collective. Et ça, c'est facile à vérifier, donc c'est un critère important. D'autre part, l'originalité, pardon, oui, j'ai pas eu le temps de le noter. Alors, l'originalité, moi, j'attirais votre attention sur le fait qu'il fallait pas considérer a priori que chaque fois qu'il y avait des mots, des sons, des images fixes ou animées, il y avait des œuvres. Ce serait une erreur. Le droit d'auteur ne connaît que des œuvres. Il faut donc que ça réponde à la définition de l'œuvre. Il faut, au demeurant, que cette œuvre soit originale. Mais j'ai ajouté que, quand même, il y avait de fortes chances pour que les œuvres développées dans le cadre de ses activités soit originale. J'ai simplement pris l'exemple, mais un peu limite, de la prétendue œuvre qui se limiterait, au fond, à la conversion d'une œuvre préexistante en format numérique. Là, c'est simple, il n'y a pas d'œuvre. Ou alors de l'œuvre qui est, de toute évidence, une simple compilation. Ça apparaîtra dans sa structure. C'est-à-dire que on prend des images, on prend des données, et on ne fait pas l'effort de les redistribuer, de les scénariser. Je ne crois pas que l'hypothèse soit très fréquente. Au fond, pour prendre l'exemple dans le domaine de la médecine, j'ai dit un traité d'anatomie, c'est peut-être difficile de mesurer l'originalité. En fait, pas tant que cela. Pas tant que cela. Parce qu'il y a mille et une façons d'expliquer les choses, de faire des dessins, je ne sais pas, je dois dater là, mais en éclaté. Enfin, il y a beaucoup de façons de présenter une réalité objective. Évidemment, on ne peut pas changer la place des organes, mais on peut l'expliquer différemment. Eh bien, la jurisprudence est très peu exigeante, et de mon point de vue d'ailleurs, trop peu exigeante, mais mon opinion personnelle là n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle a quand même tendance, j'allais dire dans le doute, à considérer que la condition d'originalité est satisfaite. De sorte que vous êtes prudent et vous serez prudent les uns et les autres en considérant que... Simplement, il y a des cas où il faut pas entrer dans le jeu du droit d'auteur parce que le droit d'auteur, de toute façon, n'a pas vocation à s'appliquer. Et autant le dire, parce que ça peut permettre d'éviter bien des complications.
Madame de Lamotte, est-ce que vous êtes satisfaite de ces éléments-là? Enfin, André Lucas a bien marqué qu'il peut pas donner de réponse définitive et on le comprend. Et on va... Alors, maintenant, Emmanuel Vitalis, au neige.
Donc, quelques remarques en réaction à l'intervention. Alors, à propos de l'originalité, justement, donc nous, enfin, a priori, dans le cadre de moi, ce que je vois passer, ça semble évident qu'il y a une empreinte de la personnalité de l'auteur sur des textes qui sont des cours. Par contre, c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai pensé à un cas précis d'un cours qu'on avait eu qui finalement n'était qu'une succession de phrases un peu comme des notes. Et alors j'imagine qu'il y avait eu sûrement l'originalité dans le plan, mais à tel point qu'en fait c'est la cellule TIS qui a reformulé le cours en phrases pour une meilleure compréhension. Et je me dis que sur cette question-là, par rapport au jeu de co-auteur, etc., c'était un cas qui nous est arrivé. Sinon,
si c'est comme ça en médecine,
non. Non, c'est arrivé une fois, mais c'est vrai que je précise parce que ça me paraît, je pense que ça peut se présenter. C'est intéressant précisément quand là où il y a eu des problèmes de le noter. Et puis sur la question donc de la notion d'auteur, puisque c'est le thème, pour clarifier en fait le sujet, je pense qu'il est donc important de distinguer le contenu, ce qu'apporte l'enseignant auteur, et la partie technique. Et en fait, donc il apparaît évident que pour le contenu, c'est l'enseignant qui est auteur. Pour la partie technique, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres UNT, mais dans le cas où nous, c'est souvent donc la cellule TIS qui fait cette partie technique en concertation avec l'auteur. Donc souvent l'auteur fait lui-même la scénarisation. Donc la cellule TIS, on pourrait dire, n'a qu'un rôle d'exécutant, d'autant plus c'est fait avec une chaîne éditoriale. Donc est-ce qu'il y a une originalité là-dedans? Je ne pense pas. Par contre, il doit bien y avoir des cas où c'est une société, dans le cas où une société extérieure donc qui fait ce travail-là, où il y a vraiment une création, vraiment une empreinte de la personnalité. Donc là, j'imagine qu'il faut il faut penser là en termes de contrat de cession des droits d'auteur, il faut surtout il faut penser à leur faire céder à cette société aussi en plus des enseignants chercheurs. Et puis concernant l'œuvre de la collaboration, l'œuvre collective qui suscite beaucoup de débats. Alors dans le cadre d'Oneige, nous, il s'agit plus justement, on n'a pas de à ma connaissance d'œuvres collectives, parce qu'il n'y a pas, aucune œuvre qui correspond à la définition ce fonds ou créée à l'initiative d'eux, c'est-à-dire qu'on fait des appels d'offres pour, en fait, c'est comme NIT, comme UFVF, c'est-à-dire est-ce que vous avez des choses à nous apporter qui nous intéressent, donc on fait des appels d'offres, mais ce sont les enseignants qui vont, donc par contre, ce qu'on a évidemment, c'est des œuvres de collaboration, je veux dire à l'intérieur même du contenu. Par exemple, deux auteurs qui vont travailler ensemble. Donc un tel va faire le chapitre 1 à 5 du cours, l'autre va faire le chapitre, etc. Donc ça complique encore la donne, voilà. Et voilà.
André, tu veux répondre ?
Alors, il y a beaucoup de choses. L'originalité des œuvres pédagogiques, bon, elle est variable, l'empreinte de la personnalité, pour reprendre la formule, elle se retrouvera dans beaucoup de cas, je l'ai dit, même pour des œuvres de caractère scientifique. Et dans le domaine juridique, ça me paraît évident, il y a un style. Alors, quand on connaît par exemple les auteurs, on sait bien les retrouver, hein. Donnez-moi trois lignes d'Yvan Delvize, là, je vais tout de suite retrouver sa patte, là, et je vais dire, c'est lui. Alors, il se trouve que je le connais, mais en fait, on pourra faire l'expérience. Donc, c'est possible de caractériser l'originalité, c'est sûr. Mais, dans le cas d'une succession de notes non rédigées, même pas de phrases, qu'on peut être
mais avec un plan quand même construit. Hein.
Alors, faut voir si oui, mais enfin c'est pas, faut voir si la construction elle-même révèle ce minimum de créativité à défaut de quoi.
Ça peut.
Justement, je peux pas répondre. Pour la syntaxe, pour l'idée qui me vient à l'esprit est la suivante. Une œuvre littéraire, c'est pas forcément une suite de phrases. Hein. On considère que les logiciels sont protégés en tant qu'œuvre littéraire. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, alors que la syntaxe est extrêmement pauvre et le vocabulaire encore plus. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de phrase qu'il n'y a pas d'œuvre. Cela dit, dans certains cas, on sera vraiment à la limite
sur les logiciels, vraiment.
Que la syntaxe est pauvre.
Il y a un style, il y a beaucoup de choses. Dès que vous rentrez profond, c'est beaucoup plus riche, varié, poétique comme le croit.
Poétique même. Je note.
C'est parce qu'on n'a pas étudié la langue.
Je note la poésie.
J'ai
bien compris. J'ai bien compris le clin d'œil. En tout cas, là, on approche la limite, certainement, dans l'exemple que vous citez. Ensuite, à propos de la notion d'auteur. La contribution technique, ça me permet de répondre à la question qu'a posée mon collègue Dupuis aussi à propos de la scénarisation. Vous dites, mais quand est-ce que ces ressources techniques quand seront-elles de nature à conférer la qualité d'auteur ? Eh bien, lorsqu'elles seront allées au-delà du stade de la prestation de services techniques. Et je réponds là en utilisant presque les mots qu'a utilisé la Cour de cassation. Hein, l'affaire me revient à l'esprit, c'est une affaire qui remonte à 20 ans, dans le domaine de l'audiovisuel. C'était quelqu'un qui se prétendait réalisateur audiovisuel parce qu'il avait filmé en plan fixe et continu cet inénarrable battleur et intarissable battleur qui est Pierre de Bellemare, à la télévision, il disait « Moi, j'ai fait une œuvre audiovisuelle. » Et la Cour de cassation lui a répondu « Non, vous n'avez délivré qu'une, je cite, « banale prestation de service technique ». Eh bien, lorsqu'on ne fait que délivrer une banale prestation de service technique, on ne peut pas réclamer la qualité d'auteur, on ne peut pas réclamer la qualité de co-auteur. Voilà, ce sont ces principes qui s'appliquent. Alors après, il faut regarder au cas par cas, ça m'est difficile d'être plus précis. Sur l'œuvre collective, vous dites, oui, mais il n'y aura pas toujours une initiative de l'université, puisque ça va être un appel d'offres et l'initiative va venir des enseignants eux-mêmes. Là, je crois qu'on peut préciser les choses. Lorsque le texte vise l'œuvre créée à l'initiative d'une personne, physique ou morale, en réalité, il faut entendre le mot expertise dans un sens large, intéressant moins l'initiative de la création elle-même que l'initiative du processus créatif et du financement. Traduisez, c'est celui qui lance le projet et qui le finance. Et alors là, si vous traduisez de cette façon, vous n'avez plus de problème. Au fond,
Les éditeurs, y compris juridiques, je parle sous le contrôle de Patrick, les éditeurs travaillent souvent comme ça, font des œuvres collectives, mais souvent le projet scientifique leur est soufflé, leur est proposé par des auteurs. Il n'empêche que l'éditeur, à partir du moment où il met sur la table les moyens, y compris financiers, sera considéré comme ayant pris l'initiative de l'œuvre. Je crois donc que là, on peut simplifier les choses. Et dernière question, mais à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure, assez intéressante, la question de savoir si les tuteurs, celui que vous avez présenté comme le tuteur, ne vient pas compliquer un peu la donne. Est-ce qu'il ne peut pas faire valoir des droits, puisque même s'il n'est pas créatif, il joue un rôle? Enfin, c'est comme ça que vous avez posé la question. En fait, vous avez donné la réponse, c'est-à-dire, s'il ne joue pas de rôle créatif, eh bien, il ne doit pas pouvoir être considéré comme co-auteur, tout simplement. Seulement, s'il intervient, et par exemple, si son image est utilisée, je n'en sais rien. Ça, c'est un problème qui ne relève pas du droit d'auteur, mais du droit à l'image. On pourrait même imaginer que parfois certains intervenants, mais là je complique, que certains intervenants jouent un rôle, et que jouant un rôle, on puisse songer à leur reconnaître la qualité d'artiste interprète. Je ne sais pas si ça peut cadrer avec les hypothèses que vous envisagez. En tout cas, le tuteur, en tant qu'il a facilité les choses, mais sans avoir de rôle créatif, ne peut pas. Il n'y a pas de question à lui demander. Il ne faut pas le considérer comme un auteur.
Michel Dupuis souhaite. Il reste 7 minutes encore pour échanger seulement entre participants à la table ronde.
Je ne voulais pas abuser.
Oui, oui. Et après,
j'aimerais,
on échange avec la salle.
J'aimerais vous parler d'une difficulté que nous avons dans le cadre de l'UMVF, où nous avons des photos qui sont utilisées. Alors ces photos posent bien sûr un problème de droit à l'image, mais ça c'est pas le propos. C'est qu'ils ont forcément, il y a bien quelqu'un qui les a prises, ces photos. Et bien souvent, ces auteurs qui ont pris ces photos, on ne les retrouve plus, en fait, on ne sait pas qui. Et on met en ligne comme ça les universités, puisqu'en fait dans le cas de l'UMVF, c'est comme ça que ça marche. Les universités mettent en ligne sans se poser de questions toute une batterie de photos. Et nous, dans la commission juridique de l'UMVF, on est très très embêtés parce que on ne sait pas trop quelles préconisations leur donner à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est original de prendre une photo de foie? Je parle de foie, mais enfin...
Il n'y a pas deux fois qui se
ressemblent. Ah, non hein.
C'est quoi l'image d'un
pince? Ça dépend si le foie est en dehors ou dedans.
Il y a deux séries de réponses à faire. D'abord, pour l'originalité des photographies, on applique les règles qu'on a évoquées tout à l'heure et qui ne donnent pas une solution, qui ne permettent pas de donner une réponse précise, en tout cas à l'avance. Disons que là aussi, la jurisprudence est assez, les tribunaux sont assez indulgents, mais quand même, je vois passer de plus en plus de jugements et d'arrêts qui disent non. Vous avez photographié des objets de consommation courante, par exemple, très fréquent ça, pour un catalogue. Non. Vous les avez présentés de manière à ce que le public puisse les identifier. Mais il n'y a là aucune recherche, il n'y a là aucune mise en scène, il n'y a là aucune activité créative. Eh bien, vous ne serez pas protégé. Alors, est-ce que ça s'applique à la photo d'organes? Ça dépend. Là, c'est difficile de répondre. Faut voir, parce qu'il peut y avoir un travail considérable pour faire... Donc, il est impossible de répondre. Deuxième série de réponses à apporter... Est-ce que c'est bien normal de piocher un peu des photographies partout sans se préoccuper de savoir si ces photographies sont protégées par le droit d'auteur? Non, c'est pas normal, mais c'est très fréquent. Il faut savoir que dans le domaine de la photographie, le droit d'auteur est très peu appliqué. La presse, par exemple, ne respecte que très peu le droit d'auteur des photographes. Par exemple, vous voyez dans certaines... Ça se fait moins maintenant, mais vous voyez encore des photographies avec l'indication DR. C'est pas les initiales du photographe, hein. Ça veut dire droit réservé. Ça veut dire on a cherché le titulaire des droits. En fait, on l'a jamais cherché. S'il se manifeste un jour, on sera prêt à lui payer quelque chose en tenant compte des tarifs de tel correspondant à tel syndicat. C'est tout à fait illégal. Le droit d'auteur implique qu'on demande d'abord l'autorisation. Donc, ce sont des pratiques contra legem, mais qui sont très fréquentes. D'ailleurs, j'ajoute que le fait de repousser en fin d'ouvrage ou en fin de magazine l'indication du nom des auteurs n'est normalement pas suffisante, surtout quand ce n'est pas le nom des auteurs des photographies, mais le nom des agences, ce qui est très fréquent. Regardez dans les revues, vous ne trouvez jamais le nom du photographe, sauf si c'est Douaneau. Mais autrement, vous ne trouvez jamais son nom. Vous trouvez l'agence de presse. Donc on ne respecte pas. Alors si on ne les respecte pas dans la presse, je ne suis pas étonné qu'on ne la respecte pas non plus. Mais si vous me demandez si c'est normal, non, je ne peux pas vous dire que c'est normal. Simplement, il y a une... C'est très difficile, c'est vrai, de rechercher les titulaires des droits sur une œuvre de photographie. Il y a des sociétés de gestion collective dont le rôle est de gérer les droits sur les œuvres des arts graphiques et plastiques. Et c'est vrai que c'est prudent de leur poser la question. Ils ne peuvent pas toujours répondre, mais au moins ça montre la bonne foi. Donc c'est un conseil que l'on peut donner. Il y a aussi le cas de ce qu'on appelle, c'est un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, les œuvres orphelines, c'est-à-dire des œuvres dont il est quasiment impossible en pratique de déterminer le titulaire, parce qu'on ne sait même pas si le titulaire a encore des droits à faire valoir. Allez savoir si le photographe est mort depuis plus de 70 ans, parce que la durée du droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Mais comment est-ce qu'on peut savoir?
C'est en couleur la photo, on sait.
Oui, d'accord, d'accord. C'est un élément, mais dans beaucoup de cas, on ne le saura pas. Bref. Je sais bien que ça se pratique comme ça, c'est pas normal. Moi, le conseil que je donne quand même, c'est de prendre un minimum de précautions pour que le moment venu, on puisse exciper de sa bonne foi, et pas seulement de ses usages contraires à la loi.
Est-ce qu'il y a encore Gilbert Touzeau et puis Emmanuel Vitalis?
Moi, j'ai une petite remarque.
Avec le micro, Gilbert, merci pour l'enregistrement.
Une petite remarque, plutôt une anecdote. Vous connaissez tous le logiciel ouvert. C'est-à-dire qu'on a accès aux sources Linux, qui a été écrit en grande partie au début par Linus Torvald. Eh bien, il y a un jeu connu sur Internet qui est d'aller voir les sources et de reconnaître quelles lignes ont été écrites par Linus et par d'autres. Et il y a des paris considérables sur ce jeu. Et en général, les bons reconnaissent bien. Ça veut dire qu'il y a un style. C'est une remarque hein, pour s'amuser.
Emmanuel.
Alors moi c'est moins drôle ce que j'allais dire, j'avais parlé de la mention copyright. En fait, il y a une confusion. Il y a une confusion souvent sur les ressources numériques. On voit accoler à la mention copyright, non pas le nom souvent qui devrait être de l'université, puisque l'auteur a ses droits à l'université, mais le nom de l'enseignant qui donc à la base était auteur. Et alors qu'on devrait trouver le nom de l'université et le nom de l'enseignant dans évidemment les mentions légales avec les producteurs, etc. Mais c'est quelque chose qui semble assez confus dans l'esprit des gens, et aussi de croire que la mention copyright a une valeur en droit français, ce qui n'est pas le cas, c'est juste une valeur d'usage, puisque il s'agit d'un emprunt au droit anglo-saxon, mais de faire le point sur cette notion qui me semble assez floue dans l'esprit des non-juristes.
Alors, ce qu'il faut répondre d'abord, mais vous venez de le faire, c'est que, de toute façon, en France, on est un pays de droit d'auteur et pas de copyright. Il est donc un peu dérisoire de parler de copyright et de reprendre la mention du C entouré d'un rond qui, pendant longtemps, aux États-Unis, a conditionné l'accès à la protection du copyright. Hein, en droit américain, il y avait deux formalités qui étaient nécessaires pour bénéficier du copyright. Il fallait, d'une part, apposer la mention du C avec un rond autour, il fallait d'autre part déposer un exemplaire de l'œuvre au Copyright Office à Washington. Ces deux formalités, y compris en droit américain, ont disparu. Les Américains, lorsqu'ils ont adhéré à la Convention de Berne en 1989, ont été obligés d'abandonner ce système car la Convention de Berne l'interdit, purement et simplement. Donc ils ne pouvaient rentrer dans la Convention qu'à la condition d'abandonner ce système. Ils l'ont abandonné.
Au profit
de sans aucun profit, ces mentions ne peuvent en aucune manière conditionner la protection du droit d'auteur. Autrement dit, un auteur français, italien ou belge peut se prévaloir de la protection aux États-Unis sans qu'on puisse lui opposer le défaut de mention du copyright et le défaut de dépôt au Copyright Office. Disons qu'en droit américain, ces mentions, le dépôt, ça existe encore, mais la mention du copyright a un intérêt d'un point de vue procédural, mais j'allais dire pour des procès uniquement américains, parce que ça permet d'obtenir plus de dommages-intérêts, en quelque sorte. Mais c'est tout. Donc, ça ne sert à rien. Alors, on dit, mais est-ce que c'est utile? On peut mettre ce qu'on veut, parce que ce qui nous intéresse, nous, en droit français, c'est que, je l'ai rappelé tout à l'heure,
la loi attache à l'indication du nom de l'auteur une présomption de qualité d'auteur. Autrement dit, lorsque l'œuvre est divulguée sous le nom d'un auteur, cet auteur est présumé être l'auteur de cette œuvre, est titulaire des droits d'auteur, il n'a pas d'autres preuves à rapporter. Donc, ce n'est pas inutile de le mentionner. Mais sous cet angle et sous ce rapport, ça ne concerne que l'auteur réel. Donc, si vous voulez vraiment indiquer le nom de l'auteur, vous pouvez le faire, ça ne mange pas de pain, bah, indiquez le nom de l'auteur lui-même, c'est-à-dire, ou des auteurs qui ont réellement créé l'œuvre. Alors, est-ce que vous pouvez en plus indiquer que il y a un établissement d'enseignement qui est titulaire des droits, non pas en qualité d'auteur, sauf le cas c'est, particulier.
Est-ce que ça ne crée pas de la confusion si on met justement copyright au nom de l'enseignant auteur et...
Bon, moi d'abord, mon sentiment, c'est que ça rime à rien de parler de mention de copyright. Je sais bien qu'on le fait beaucoup, mais il ne faut pas le faire, parce que ça n'existe pas chez nous. Ça montre qu'on ne maîtrise pas du tout le problème, donc ça n'inspire pas confiance aux gens. La protection du droit d'auteur naît en France du seul fait de la création. En aucun cas, elle ne peut être subordonnée à un quelconque dépôt ou à une quelconque mention. Cela dit, rien n'empêche de faire un dépôt, dans certains domaines, c'est fréquent, les logiciels, c'est utile. C'est utile notamment pour dater la création. C'est utile pour résoudre un problème de preuve de paternité. Parce qu'il arrive que dans certains domaines, il y ait des créations qui soient en quelque sorte dans l'air. Et c'est vrai ça. Dans l'histoire des inventions, on a rencontré ça. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent en être donnés d'idées qui germent à peu près au même moment dans différents coins de la planète, dans l'esprit de différents auteurs. Eh bien, là, ça peut se jouer à quelques mois, à quelques jours même, et ça peut être utile. Mais en aucun cas, ça ne peut conditionner la naissance du droit d'auteur. Alors, l'intérêt de le mentionner quand même sur un document, à la fois la qualité de l'auteur et la qualité du titulaire des droits, c'est que ceux qui voudront utiliser ces ressources sauront à qui s'adresser. Donc je ne dis pas que c'est inutile.
Oui, c'est enfin,
surtout ne pas croire que ça conditionne la protection. Mais pour moi, il faut bien distinguer la mention de la qualité d'auteur, d'une part, et la mention du titulaire des droits, parce que ce n'est pas forcément le même. Et donc il faut bien indiquer, il faut dire, par exemple, auteur, et vous donner l'indication du nom de l'auteur, parce que là, vous respectez ce qu'on appelle en droit français le droit à la paternité. Donc vous ne faites que respecter son droit à la paternité. Vous lui devez ça à l'auteur. Bien. Mais rien ne vous empêche de dire, à condition que vous le disiez clairement, que les droits appartiennent à... Enfin, c'est une question, c'est un problème différent. Et chacun comprendra bien que ça voudra dire que l'auteur a cédé ses droits à l'entité qui se désigne ainsi. Voilà mon conseil.
Merci. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons arrondir la table ronde à l'ensemble de la salle. Troisième temps. Déjà, Albert-Claude Benamou, qui est le directeur de l'Université médicale virtuelle francophone, a demandé la parole. Marina va lui donner le micro et elle se tient à votre disposition pour que vous puissiez, vous également, intervenir pendant la table ronde et poser les questions que vous souhaitez.
Oui, j'ai deux observations et en même temps une histoire, celle de l'UMVF qui s'est construite sous l'égide d'un sage qui était le premier président de l'UMVF, José Savoie, professeur de droit, et qui certainement, de manière autorisée, nous a un peu conduit, puisque à la base de la création de la première UNT, c'était l'esprit de la mutualisation, de la mise en commun et de l'esprit collectif qui devait gérer la production des ressources qui étaient mises à la disposition de l'ensemble des étudiants en médecine et des enseignants de médecine. Et donc dans cette perception, il a probablement peut-être induit, et si j'ai bien compris les recommandations que peut-être toutes les UNT pourraient suivre pour entrer dans l'œuvre collective, c'est bien d'organiser un peu le processus qui a été mis au point dans l'UMVF, que Anne de Lamotte a indiqué, c'est-à-dire que finalement c'est un travail à la base collectif, c'est-à-dire c'est un projet collectif qui commande la production. C'est le comité de pilotage, le conseil d'administration, et puis derrière, il y a à chaque participation créatrice de quelques-uns ou même d'une personne qui est déléguée pour produire, Il y a un deuxième processus collectif qui intervient, c'est-à-dire on désigne des évaluateurs pour dire que la production est conforme au cahier des charges qui avait été imaginé par la collectivité, etc. Et donc tout ceci conduit finalement à avoir une certaine sécurité puisqu'on est vraiment déjà dans la définition même d'une œuvre collective et qu'on a... on risque peut-être d'avoir moins de soucis de droits d'auteur, etc. Alors, mais ça c'est la première chose. Concernant une autre observation qui me paraît importante, finalement au travers du vécu des UNT, on se dirige progressivement dans le monde de l'Internet des contenus et de l'Internet du futur qui est l'Internet... collaboratif 3.0 avec des productions qui viennent d'individus mais qui entrent dans la collectivité par définition puisque c'est le monde des wikis, hein, on produit et on met à disposition gratuitement, on fait un don à la collectivité de manière volontaire, c'est le principe. Et de plus en plus, par ailleurs, dans l'organisation des contenus de l'Internet, on est dans le content management. C'est-à-dire l'idée qu'il faut, il faut flécher, indexer, non pas seulement les mots-clés d'une œuvre, mais tous les mots. Avoir une sécabilité, c'est le mot qui est employé, pour que les contenus qui sont identifiables, granularisés, c'est le mot employé, puissent secondairement donner lieu à une œuvre de reconstruction ou de compilation, mais originale. Alors là, c'est une question que je vous pose. C'est dans cette œuvre de compilation originale, il y a peut-être là, malgré tout, un travail créatif qui peut être reconnu à l'enseignant, au tuteur même, dont a parlé Dupuis. Il y a peut-être là quelque chose qui est de l'ordre, à nouveau, d'un travail qui relève vraiment de la pédagogie numérique, qui est de savoir utiliser les ressources, de savoir les organiser, de donner sa pensée personnelle avec des briques qui viennent... qui sont constitués d'objets qui peuvent être très hétérogènes. Rien ne vous empêche de prendre des bouts de Stanford ou de Lille 2 ou d'un autre établissement parce que vous allez trouver peut-être des éléments.
C'est ce qu'on fait tous.
Et donc on est dans des pratiques, c'est ça, qui se sont de plus en plus ancrées dans cet esprit de cueillette des ressources et de reconstruction d'un bouquet particulier. Qui est la marque de l'enseignant.
Deux observations brèves. D'abord, pour dire que, effectivement, c'est important du point de vue de l'œuvre collective que l'organisation soit elle-même collective. Et il ne suffit pas de constater qu'elle l'est. Je pense qu'il est utile de le dire. J'ai dit tout à l'heure que la qualification d'œuvre collective ne pouvait pas être abandonnée comme ça à la volonté des parties. C'est vrai. Il n'empêche que le moment venu, le juge ne manquera pas de tirer argument, enfin je dis le juge parce que nous on a l'habitude de raisonner par rapport à cette hypothèse du recours au juge, mais il n'empêche que le moment venu, on saura donner l'importance qui convient au contrat en disant qu'il reflète bien la volonté des parties sur la façon dont le travail doit être organisé. Donc il ne suffit pas que ça se fasse, il faut le dire et que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. J'ajoute que ce que vous avez dit sur le travail de correction, c'est extrêmement important, parce que le pouvoir hiérarchique de la personne morale, promoteur de l'œuvre collective, trouve souvent à s'exercer à travers la faculté de correction qui est la sienne. Parce que ce n'est pas le cas d'un éditeur ordinaire qui n'a pas à toucher. Il violerait le droit au respect de l'œuvre s'il s'avisait de le modifier. Mais au nom... de son pouvoir hiérarchique, le promoteur de l'œuvre collective, celui sur la tête duquel naissent les droits, il va pouvoir demander, exiger les corrections. Donc c'est très important, là encore, que ce pouvoir existe et qu'il soit mentionné, il faut le dire, pour bien acter, comme on dit, la qualification. Sur le web 3.0, le travail collaboratif et les différents apports successifs qui peuvent... s'additionner, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, enfin, et s'enchevêtrer en même temps. Et sur le travail de granularisation, pendant qu'on y est, allons-y,
Oui, bien sûr, ça peut donner. Oui, bien sûr, ça peut constituer un travail, enfin une activité créative susceptible de donner prise aux droits d'auteur. Oui, tout à fait. Là, en fait, on est même vraiment dans le type même de l'œuvre composite, c'est-à-dire de l'œuvre qui est originale, mais dont tous les éléments sont empruntés à des œuvres préexistantes. Mais néanmoins, c'est original. Alors, l'exemple classique d'autrefois, c'était l'anthologie. Une anthologie de la poésie française, là, ça peut paraître curieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est ajouté par l'auteur de l'anthologie. Généralement, d'ailleurs, il y a quelque chose de toute façon. Mais supposons, pour les besoins de la discussion, qu'il n'ait même pas mis son grain de sel, qu'il n'ait même pas rédigé la préface, eh bien, de toute façon, on considère que le simple choix qu'il a fait des poètes qui lui paraît, enfin, et l'ordre au demeurant dans lequel il les a placés, suffit. Alors, vous voyez bien que dans le cas que vous avez cité, on est parfaitement en droit de considérer qu'il y a là un apport original.
Merci. Alors, dans l'ordre, Patrick Metz-Duchambon, Jean-Yves Capu ensuite,
André, je voudrais que tu mettes l'accent, parce que sur la qualification d'œuvre collective du travail que l'on fait, je ne crois pas qu'il y ait de grandes difficultés. On a l'initiative pédagogique, on a l'initiative financière. Ouais. Même quand on fait des appels d'offres, les gens sont obligés de se couler dans des moules qui sont des moules éditoriaux extrêmement précis. Donc je crois que, par prudence, on a intérêt à rappeler qu'il s'agit d'une œuvre collective et je crois qu'on a tout intérêt à le faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait de difficultés juridiques sur la qualification. Là où je suis plus inquiet, où j'aimerais que tu interviennes, c'est quels sont les droits que conservent les auteurs lorsqu'ils interviennent dans une œuvre collective. Le droit pécuniaire, il n'y a pas de problème. Soit sur le droit pécuniaire, je crois que l'initiative, c'est bien évidemment à l'auteur de l'œuvre collective. Mais on a quand même le droit moral, et c'est extrêmement complexe dans un enseignement numérisé. Parce qu'un enseignement numérisé, ça n'est pas la reproduction pure et simple d'un enseignement papier qu'on a numérisé. Il y a toute une logique pédagogique, et si on veut même que le système fonctionne bien, il faut faire appel à des tuteurs qui partent à partir de ces ressources numérisées et qui sont amenés parfois à les compléter, à les modifier, à intervenir dessus. C'est-à-dire, éventuellement, à trahir, parfois, la pensée de l'auteur initial. Et je ne crois pas que nous sommes protégés par la qualification d'œuvre collective. Tu sais que c'est un des grands problèmes que l'on se pose, même dans des encyclopédies papier, quand un auteur nous abandonne, on a son fascicule, est-ce que le suivant a la possibilité de reprendre l'intégralité des propos? Ça n'est pas aussi simple que cela, et je crois qu'il ne faudrait pas que l'on se trompe en disant que lorsqu'on a choisi la qualification d'œuvre collective, tous les droits ont été transférés à l'auteur de l'œuvre collective, les auteurs les auteurs individualisés perdent l'intégralité de leurs droits en ce qui concerne le droit moral et en ce qui concerne, bien sûr, le respect du travail qui a été fait.
Oui, il y a la question du droit moral, mais hélas pour toi, enfin, il y a aussi la question des droits patrimoniaux qui n'est pas réglée de façon définitive. Je vais dire pourquoi. Je répondrai naturellement à la question du droit moral. Pour les droits patrimoniaux, donc en dehors du droit moral, les droits qui appartiennent à l'auteur et qui lui permettent de subordonner à son autorisation la reproduction de son œuvre et la communication au public de son œuvre. Patrick a dit ces droits sont transférés aux promoteurs de l'œuvre collective. En fait, ils ne sont même pas transférés, ils naissent sur la tête de ce promoteur. Ce qui est, je l'ai dit, une situation très avantageuse. Cependant, ces droits ne naissent sur la tête du promoteur que relativement à l'œuvre collective considérée dans son ensemble, comme un tout. En revanche, lorsqu'il s'agira d'exploiter sous une forme ou sous une autre des composantes de cette œuvre, on retombera sous le régime du droit commun, du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on aura affaire à des auteurs à qui il faudra demander une autorisation. Concrètement, ça veut dire ceci. Voilà une œuvre collective, elle est incontestablement collective. Pour l'exploiter en tant que telle, le titulaire, le promoteur, celui que j'appelle le promoteur, n'a aucune autorisation à demander. Il est investi à titre originel. Mais s'il s'avise d'exploiter, non pas l'œuvre dans son ensemble, mais certaines composantes de l'œuvre, eh bien là, on retombera sous le régime de droit commun. Or, c'est très fréquent que l'exploitation numérique conduise à exploiter des différentes parties d'une œuvre. Le problème s'est posé notamment en jurisprudence, il y a eu beaucoup d'affaires à propos des journalistes. Lorsque les articles des journalistes ont été mis en ligne, ça a commencé avec les dernières nouvelles d'Alsace, un très beau procès, mais ça continuait à Lyon, ça continuait avec d'autres organes de presse. Les éditeurs de presse ont dit « mais on n'a pas d'autorisation à demander aux journalistes, on est titulaire des droits sur une œuvre collective, donc on les a ».
Vous les avez lorsque vous voulez exploiter le journal en tant que tel, mais en pratique, la mise en ligne suppose, pour des raisons pratiques évidentes, qu'on n'exploite pas de la même façon que le journal papier, et donc on est conduit à exploiter plutôt, enfin, c'est discuté, hein, mais les composantes, les articles eux-mêmes. Et là, on retombe sous le régime de l'autorisation. De sorte que même sur le terrain des droits patrimoniaux, il faut prendre garde, et au fond, le conseil qu'on peut donner, c'est que, au moins pour ce type d'exploitation, il est prudent de se faire consentir une cession. Et pour montrer qu'on fait bien la différence, il faut bien dire que la cession porte non pas sur les droits portant sur l'œuvre collective, ça n'a pas lieu d'être, mais qu'elle porte sur les droits afférents à la contribution en tant que telle dont l'exploitant veut avoir, et c'est légitime, la pleine maîtrise juridique. Et puis il y a la question du droit moral, et là, effectivement, elle se pose. Droit à la paternité, je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes pour vous. Enfin, faut quand même que ça soit toujours apparent, hein. Il faut que le nom de l'auteur soit apparent. Ça suffirait pas, de mon point de vue, qu'il faille cliquer pour avoir accès à un fichier qui donne les renseignements, hein. Moi, je crois qu'il faut que ça soit en même temps que le coup. Bon, il n'y a pas de problème. Sur le droit, ce que nous appelons le droit au respect de l'œuvre, c'est-à-dire qu'au titre du droit moral, l'auteur peut interdire qu'on touche à son œuvre. Touche pas à mon œuvre. C'est ça que le droit moral à la française. Touche pas à mon œuvre. J'ai pas de raison à donner, au contraire de ce qui se passe dans beaucoup de pays. J'ai pas à expliquer que la modification envisagée porte atteinte à mon honneur ou à ma réputation. Non. Je dis simplement, c'est mon œuvre, je ne veux pas qu'on y touche. Donc, ça paraît très gênant. Et je comprends que Patrick pose la question. Le problème se pose, mais il se pose quand même de manière atténuée à propos de l'œuvre collective. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence dit que, et la Cour de cassation l'a dit de façon très, très nette, notamment dans une espèce où était en cause un professeur de droit, à propos de l'encyclopédie du droit des affaires. Et le professeur de droit se plaignait de la façon dont on avait redistribué ses contributions, parce qu'il dirigeait le travail. Et les tribunaux, les juges du fond lui ont donné tort, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui était formé contre cette décision en disant que le promoteur de l'œuvre collective tirait de son pouvoir hiérarchique la possibilité d'imposer un minimum de modifications. Ça veut dire en clair que le droit moral des auteurs des contributions est un droit plus faible que celui qui appartient notamment à l'auteur. Il doit supporter les modifications indispensables à la coordination et aussi, on peut ajouter, à l'évolution de l'œuvre. Attention, je n'ai pas dit qu'il perdait son droit moral. Il en a un, mais moins fort. Voilà. Donc la question se pose, mais je pense que dès lors qu'on est en mesure de justifier que c'est indispensable pour l'exploitation de l'œuvre, je pense que le droit moral, enfin le droit, sous cet aspect du droit au respect de l'œuvre, ne représente pas un obstacle dirimant.
Monsieur Capul a demandé la parole. Voilà le micro.
Oui, c'est une question. On demande de plus en plus aux enseignants de mettre leurs cours en ligne. Il y a de plus en plus de cours en ligne. Or, on sait bien que pour la grande majorité, je ne parle pas des collègues qui sont ici, mais ce sont des travaux de compilation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un cours, on va regarder sur plusieurs manuels et on fait une œuvre qui n'est pas toujours très originale, qui est présentée un petit peu différemment. Alors, ces cours mis en ligne, quel est leur statut ? Est-ce que c'est des œuvres composites ? Est-ce que c'est des œuvres, des ressources numériques sans titulaire de droit ? Est-ce que c'est une œuvre originale et on reconnaît une création pédagogique ou simplement au fait d'avoir fait une compilation personnelle, comme ces œuvres ou ces ressources numériques vont être réutilisées ou il va y avoir des demandes de les reprendre sur des cours de formation continue ou par d'autres collègues, par d'autres établissements, quel est leur statut exactement ? Est-ce qu'il faut regarder au cas par cas, comme vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a des choses plus générales pour guider les collègues qui ont à faire face à ce type de problème ?
Sans guillemets,
c'est un objet de propédale. Oui. On peut réécrire le manuel, hein, on le fait tous. Enfin,
Il y a une chose certaine, c'est que une œuvre ne peut pas être considérée comme originale par cela seulement qu'elle serait pédagogique. Ça n'a pas de sens. C'est pas la finalité d'une œuvre ne suffit pas à la faire considérer comme originale. Le fait qu'une œuvre emprunte beaucoup d'éléments à des œuvres antérieures n'empêche pas qu'on puisse la qualifier d'originale. Elle a simplement, on dira nous, une originalité relative, mais au fond, toutes les œuvres ont une originalité relative, qui qui peut être vraiment, peut affirmer qu'il a tout sorti de son cerveau. Hein. Giraudoux disait toute littérature est plagiaire à l'exception de la première qui d'ailleurs est inconnue. Ben, oui, parce qu'on a toujours emprunté à quelqu'un. Autre chose est de savoir si les emprunts sont justifiés par le droit d'auteur. C'est une question qui sera... est-ce que c'est couvert par l'exception de citation, de recherche? Pas toujours évident. Et il y a peut-être des enseignants qui font des emprunts trop larges, des étudiants aussi. On le voit parfois dans les instances d'évaluation, tous les ans, ou presque tous les ans, il arrive qu'on ait des travaux de recherche qui soient tellement plagiaires que ben, ça provoque d'ailleurs des poursuites disciplinaires. Et ça empêche évidemment toute promotion. Alors, pour être plus précis... quel est le statut? Ben, vous l'avez dit vous-même, c'est au cas par cas qu'il faut regarder. C'est vrai que tous les cours empruntent au manuel, au traité. On les a tous construits à partir des bases que nous avions. Mais ça n'empêche pas que dans la façon dont l'enseignement va être organisé en général, dans les exemples qu'on va choisir, par exemple, souvent, quand même... l'auteur va choisir des exemples qui lui sont propres et qui lui paraîtront spécialement adaptés au public qu'il veut toucher. Compte tenu de l'indulgence de la jurisprudence, hein, je le rappelle, je crois qu'on a quand même intérêt à considérer qu'il y a de très grandes chances pour que l'œuvre, malgré son faible niveau d'originalité, soit protégée par le droit d'auteur. J'attire votre attention sur le fait qu'en droit d'auteur, contrairement à ce qui se passe en matière de brevet d'invention, il n'y a pas... un seuil d'activité inventive. Hein. Pour bénéficier d'un brevet d'invention, il faut quand même que l'invention ne résulte pas, comme dit la loi, de manière évidente de l'état de la technique. Ici, il n'y a pas cette exigence-là. Alors, elle existe quand même, en ce sens, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un minimum de créativité. Simplement, pour que les choses soient claires, il faut dire que le minimum de créativité est bien bas. De mon point de vue, hein, on peut en discuter, trop bas d'ailleurs. Chaque fois que je le peux, j'encourage les tribunaux à être plus exigeants, parce que il y a plein d'effets pervers à cette indulgence. Et en plus, les auteurs vont pas s'y retrouver, parce que on va dire que leur œuvre est originale, mais lorsque se posera le problème, il faut toujours l'avoir présent à l'esprit, de la contrefaçon éventuelle, du plagiat, il s'agira de savoir quelle est la portée de la protection. Et le cours constitué d'une suite de citations, d'une compilation plus ou moins adroite, eh bien, je peux vous dire que la protection qui lui sera accordée sera extrêmement faible, pour pas dire inutile. Donc, il faut penser aux deux. On dira oui, l'œuvre est protégée, mais en pratique, la protection ne donnera rien.
Merci. Michel Morovedia, vous avez la parole.
Oui. Oui, professeur, j'aimerais que vous reveniez sur le droit des agents du service public que vous avez évoqué. Bon, alors le droit moral, oui, c'est satisfaisant d'être titulaire du droit moral, mais je voudrais vous partir d'un exemple qui est assez fréquent dans nos établissements. Bon, dans le cas du développement des ressources, je vais prendre un exemple que certains reconnaîtront parce qu'ils en auront des analogues. Voilà, j'ai un informaticien qui était un agent de l'État, il a été recruté par concours, etc. Bon, et il est dans ce service ben, pour faire le développement, la maintenance des applications qui sont mises en ligne. Mais il s'avère que cette personne, bon, aussi a un hobby, un dada, un talent caché. Bon, il est très bon dessinateur, par exemple, il dessine très bien. Et bon, comme on a besoin d'illustrer un certain nombre de cours en ligne, d'œuvres pédagogiques, bon, eh bien, on lui demande de faire un certain nombre d'illustrations comme ça, qui sont intégrées dans ses œuvres pédagogiques. Bon, comment, à ce moment-là, pour cette personne, donc, qui fait, en fait, qui apporte une plus-value en dehors de du service qu'on lui demande d'effectuer normalement, bon, comment analysez-vous cette situation sur le plan du droit d'un agent de l'État?
Au fond, cette personne-là peut-elle faire valoir des droits d'auteur sans préjudice de la cession légale dont pourrait bénéficier l'administration qui l'emploie. Mais en amont, peut-elle faire valoir des droits d'auteur? En matière de brevet d'invention, là, la réponse serait très simple à donner. On serait typiquement en présence d'une invention ce qu'on appelle hors mission, puisque c'est pas du tout dans sa mission. Mais d'une invention hors mission, attribuable dans le jargon du droit des brevets d'invention, c'est-à-dire que l'employeur, dont l'employeur peut demander l'attribution compte tenu du lien que l'invention a avec le service. En matière de droit d'auteur, on n'a pas ces distinctions, on n'a pas de texte bien précis, mais la logique commande de considérer que si véritablement ça ne fait pas partie de sa mission, il est investi d'un droit d'auteur sur la création qu'il a faite, le dessin par exemple, qu'il a fait. Sauf si on veut appliquer, je crois que ça serait inexact, la doctrine administrative ancienne résultant d'un avis du Conseil d'État dans l'affaire... Voilà, Ofratem. Mais bien que certaines décisions récentes continuent à s'en inspirer, il me paraît quant à moi évident que la loi du 1er août 2006, en reconnaissant expressément à l'agent public la qualité d'auteur des créations... qu'il réalise, a mis fin à la doctrine administrative de l'arrêt Ofratem. Vous savez, selon cette doctrine, eh bien, l'administration était titulaire initiale des droits sur toutes les œuvres créées par un fonctionnaire dans le cadre de son emploi. Enfin, c'était pas dit exactement comme ça, mais ça n'a pas lieu d'être. Donc, moi, j'ai envie de répondre, oui, il peut faire valoir des droits propres. Et en plus, si on n'est pas dans le cas d'une création de mission, je ne vois pas que l'administration puisse se prévaloir du mécanisme de cession légale qui est maintenant prévu par le Code de la propriété intellectuelle.
Merci. On a une question de M. Rabineau, puis ensuite notre collègue Bruguière qui souhaite intervenir, M. Rabineau, qui fait partie de la commission juridique de l'université médicale, hein, virtuelle.
Voilà.
Oui, je voudrais. On a entendu beaucoup d'arguments concernant l'intérêt des œuvres collectives dans le cadre d'œuvres plurales. Je voudrais quand même vous poser une question, ce qu'on a, me semble, n'a pas du tout été évoqué parce que c'est un peu à côté du droit d'auteur proprement dit. C'est celui de la responsabilité, parce que c'est vrai que dans le cadre de l'UMVF où nous traitons des problèmes de santé, ça va de soi. Nous avions un peu tendance à contractualiser avec l'université pour qu'elle se débrouille avec la cession des droits d'auteur. Et surtout avec une arrière-pensée, c'est de se dire que l'UMT, l'UMVF en tant que portail, de cette façon, n'était pas impliqué dans la responsabilité de l'auteur, qui lui gardait, puisqu'il signait son article, la responsabilité de ce qu'il avait écrit. Alors, bien entendu, on a bien un certain nombre de précautions sur le portail. Je voudrais faire bref, comme me l'a demandé M. Tanguy, pour dire que c'était bien à visée pédagogique et non pas à visée, disons, médicale, pour simplifier les choses. Mais est-ce qu'il y a, c'est ça ma question, dans le cas où il s'agit d'une œuvre collective, un transfert de responsabilité?
Pour moi, bon, c'est toujours dangereux de répondre trop vite, mais mon réflexe est de répondre non. Les questions de responsabilité et les questions de droit d'auteur doivent être complètement découplées. Ce sont deux problèmes totalement différents. Ça n'est pas parce qu'on est investi des droits d'auteur sur une création qu'on répond systématiquement des dommages qui peuvent être causés par l'inexactitude des contenus, par exemple. Encore une fois, j'ai tendance, moi, à revenir en arrière. Il y a un arrêt célèbre qui avait condamné un éditeur parce que c'était un guide des plantes sauvages. Et parmi les plantes sauvages, il y avait la... Je ne sais plus quelle forme de carotte, mais on avait oublié de dire que ça ressemblait furieusement à une forme de ciguë qui était mortelle. Et l'éditeur a été considéré comme responsable. Mais pas du tout parce qu'il était titulaire des droits, mais parce qu'on considérait qu'il avait manqué à son devoir de surveillance, et parce que en fait il fallait bien trouver quelqu'un, un répondant pour indemniser le dommage. Donc pour moi ce sont des questions différentes. Cela dit, je vois bien que les questions de responsabilité se posent. Je ne dis pas qu'elles ne se posent pas, mais quel que soit le parti que l'on prenne au sujet de la titularité des droits, à mon avis, des questions se posent de la même façon.
Professeur Bruguière, voilà le micro, il est là. Merci.
Moi, je reviens un peu sur le statut de ces ressources numériques suite à l'observation de Patrick Maistre-Duchambon qui me semble essentielle à propos de cette notion d'œuvre collective. Parce que finalement, cette notion d'œuvre collective, elle est difficile à définir. On voit bien qu'elle nous embête avec les droits moraux et encore les droits patrimoniaux un peu. Si bien que, je sais bien que l'originalité est appréciée de manière assez souple, si bien qu'on pourrait quand même se poser la question de savoir si ces matériaux, je dirais, qui sont fournis, ne sont pas finalement du domaine du savoir-faire, de telle sorte qu'on pourrait organiser les choses dans le cadre d'un contrat de savoir-faire pédagogique et ne plus être embêté finalement par les droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas contractualiser les choses et dire finalement que ce que vous communiquez, c'est un savoir-faire pédagogique, point final. Il n'y a plus de droit d'auteur en quelque sorte. Donc on est un peu omnibilé par la question du droit d'auteur. Je sais bien qu'il est apprécié de manière assez souple, mais il y a le contrat, et le contrat peut aussi nous aider, finalement, dans ces questions. Donc c'est une question que je pose. Est-ce que, finalement, on n'oublie pas, on a parlé de banales prestations techniques tout à l'heure, est-ce qu'on n'oublie pas ce savoir-faire pédagogique qui est communiqué, finalement, et puis on a un prix, et puis point final.
André, et à la tribune, plus largement d'ailleurs, une réaction, une réflexion, une ultime.
Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à tirer du savoir-faire, pour la raison très simple, que le fait qu'une création implique un savoir-faire n'implique pas qu'elle soit exclue du bénéfice de droit d'auteur. En vérité, toute création implique une part de savoir-faire. Essayez donc de prendre un ciseau pour taper sur une pierre, vous allez voir s'il n'y a pas un savoir-faire. Donc pour ces activités artistiques élémentaires. Et même nous qui sommes des artisans du mot, des forçats, parfois du mot ou de la phrase, eh bien au fond, nous aussi, nous mettons en œuvre un certain savoir-faire. C'est l'expérience. Donc, si ça n'est que du savoir-faire, on est en dehors du domaine du droit d'auteur. C'est vrai, banale prestation de services techniques. Mais c'est pas parce qu'on constate l'existence d'un savoir-faire que le droit d'auteur est évacué. En matière de logiciel, bien sûr, c'est du savoir-faire. Mais s'il y a une activité créative, le logiciel va donner prise à un droit d'auteur. Et on n'en a pas trop parlé, parce qu'il faut pas non plus trop compliquer les choses, mais quelqu'un a fait allusion à ça, c'est important. Le logiciel étant soumis à un régime propre, dérogatoire au droit commun du droit d'auteur, il n'est décidément pas facile d'articuler la protection d'une création et les cessions de droits qui peuvent s'en suivre lorsque cette création complexe inclut un logiciel lequel obéit à des règles spécifiques. Mais ça, j'y peux rien, c'est la faute du législateur.
Alors, vas-y. Tout produit numérique est en fait à l'intérieur un logiciel. Que ce soit du XML, du HTML, de tout ce que vous voulez, c'est masqué, mais c'est un logiciel.
Patrick Maistre-Duchambon souhaite faire une dernière remarque.
La remarque est liée à l'intervention initiale de Gilbert Touzeau en disant que je voudrais des réponses pratiques à propos du problème, monsieur, que vous avez posé en matière de responsabilité. Je pense que le problème ne se pose pas, en effet, en termes de droit d'auteur, mais le problème se pose réellement pour nous. À savoir que si nous diffusons des informations qui sont des informations erronées, il faut se poser la question de savoir quelle est la part de responsabilité de l'institution en présence de ces informations erronées. Ce n'est pas un problème de droit d'auteur, c'est un problème réel. Non pas que le problème de droit d'auteur n'est pas réel, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous soyons très très prudents en la matière. Et en particulier dans les disciplines dans lesquelles l'actualisation est quelque chose d'important, avec des connaissances qui viennent très vite obsolètes, et le fait de laisser, d'accord, sur nos UNT, des ressources qui sont des ressources dépassées, parce qu'il y a toute une série de réformes qui sont intervenues. Or, avec aussi le fait qu'on ait tendance à vouloir donner ces ressources à n'importe quelle personne, on augmente les risques de responsabilité, car on sortira un jour du simple cercle d'étudiants pour arriver au cercle des professionnels qui un jour se retourneront, comme ils le font à l'égard des éditeurs privés, parce qu'ils auront pris des informations erronées sur les sites dont nous disposons. Donc le problème de responsabilité est tout à fait réel, même s'il ne se pose pas en termes de droit d'auteur. C'est tout simplement ce que je veux dire.
Merci. Non, merci. Écoutez, il faut maintenant conclure cette matinée d'ouverture. Alors avant que nous partions, je voulais d'abord très chaleureusement remercier André Lucas. Que nous avons mis à contribution pour l'exposé, mais bien plus par les questions que vous lui avez posées. Là, je crois qu'il a eu une disponibilité tout à fait exemplaire, dont je voulais le remercier. Mais je n'oublie pas aussi tous ceux qui ont eu la gentillesse de le rejoindre à la table ronde. Et je crois que c'est une bonne démarche parce que
vous voyez, le fait qu'on commence à poser des questions à l'intervenant nous incite nous-mêmes à le faire et nous allons continuer sur la même méthode pendant les deux jours pour qu'il y ait ce climat d'échange et que vous repartiez, non pas avec des réponses toutes faites, dont André a superbement rappelé que ce n'est pas une commande envisageable et sérieuse pour un juriste, mais avec une manière d'envisager les problèmes juridiques. Peut-être une méthode, et si déjà on a le réflexe qu'il y a un problème, qu'on le détecte, que là-dessus il faut prendre conseil, je crois qu'on a bien tenu notre contrat. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne voit même pas à quel moment il faut solliciter le conseil. On va directement dans le risque, avec le risque évidemment qui se réalise. Hein? Là, je crois que c'est ça qui est important. Donc, merci. Je crois que c'était utile de bien commencer pour essayer de bien continuer. Maintenant, vous avez rendez-vous pour le déjeuner qui se tient...